BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous, on vous accompagne, on va vivre tous les moments clés de cette nouvelle séance avec l'ensemble de nos experts réunis et c'est jusqu'à 18h comme chaque jour. Notre CAC 40, il est en baisse de 0,29% aujourd'hui, 8483 points. Les fortes hausses du jour, elles sont dues à des rapprochements d'entreprises. On a cette dynamique d'OPA qui est en train toujours de continuer à monter en puissance. EasyJet par exemple, désormais ouvre la porte, pourquoi pas un accord avec Castle Lake. Ça fait plusieurs fois que Castle Lake essaie de proposer un rachat d'EasyJet. Et bien comme EasyJet ouvre davantage la porte, ce titre EasyJet gagne 10% en ce moment. Et puis ici en France, dans la défense, c'est quand même la sensation du jour. C'est finalement Thales qui va reprendre le pouvoir sur Exail, prendre le contrôle d'Exail. Le titre Thales progresse d'ailleurs, plus 1,3%. Et Exail gagne 3,3% à 126,60€. Mais d'abord, Mais oui, c'est vrai, on se laisse surprendre, c'est l'ouverture des marchés américains, parce qu'il est déjà 9h30 là-bas à New York et la cloche retentit, elle est en pitié, la cloche américaine et le chrono, donc 9h30 là-bas. Premiers instants de cotation avec notre Dream Team, Eric Lafrenière pour Sonium. Bonjour Eric. Bonjour, vous retrouvez Antoine en fil rouge. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Après un joli numéro encore ce matin, Tout pour investir, déjà disponible en podcast et replay.
Oui, avec deux sujets très intéressants. Alors vraiment pour le coup, pratico-pratique, comment assurer son autonomie, son indépendance quand on est une femme du point de vue du patrimoine. Il ne s'agit pas de préparer la guerre avec son conjoint, mais juste d'être super clair et de ne pas perdre de valeur. C'est ça véritablement l'enjeu. Et puis, juillet, c'est la saison des bonus, des intéressements, etc. Ça commence à être versé. Alors, quelles décisions prendre et comment bien arbitrer? On en parlait avec Benjamin Pedrini d'Epsor, qui est spécialiste en la matière. Et vous pouvez retrouver ça, évidemment, en podcast et replay, votre bibliothèque patrimoniale personnelle.
Eric Lafrenière, donc, avec nous, Sonium. Eric, Wall Street ouvre après un long week-end de 3 jours. Le S&P 500 gagne 0,5%, tranquille, le Nasdaq plus 0,8%. Marché d'autant plus tranquille qu'il semble que le pétrole devienne une affaire secondaire pour les marchés. On est retombé sur les niveaux d'avant-guerre sur le pétrole. Le Brent est à $72 aujourd'hui. Est-ce que le marché même est en train de basculer d'une crainte de pénurie, un risque à l'inverse de surabondance sur le pétrole?
Oui, donc on a eu une nouvelle annonce de hausse de la production des membres de OPEP+. On parle de 190 000 barils jour. Ça peut paraître modeste comme hausse. Mais si on regarde un petit peu depuis le début du conflit, on parle d'environ 1 million de barils quotidiens qui a été remis sur le marché par OPEP+. Il faut se rappeler que juste en amont du conflit, on était quand même déjà dans une période où on s'attendait à avoir un surplus de production sur le marché. On voit que depuis la trêve entre les États-Unis et l'Iran, progressivement, on a le retour des exportations du Golfe qui reviennent sur le marché. Et donc, comme vous l'évoquiez, le Brent qui revient autour des $72, c'est environ 40% en dessous des plus hauts niveaux atteints pendant le conflit. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que l'OPEP+ arrivera à garder la discipline au sein de son organisation, puisqu'on le sait, l'Irak réclame des quotas plus élevés. On sait que les Émirats, eux, disposent de capacités de production importantes dans un environnement où la demande est encore un peu incertaine. Et donc, si tous ces barils reviennent sur le marché en même temps, on pourrait se retrouver effectivement dans une situation d'excédent. Et là, la question sera, est-ce que les membres vont réduire cette production pour préserver les prix, ou est-ce qu'on peut entrer dans une phase un peu de guerre pour aller chercher des parts de marché? Et ça, les prochains mois nous le diront.
Oui, avec une baisse de production donc dans le collimateur. Le pétrole est à $72 en ce moment pour ce qui concerne le Brent. Le Nasdaq, on va suivre notamment demain le Nasdaq parce qu'il va intégrer, ça y est, pour la première fois, SpaceX. On y reviendra, SpaceX demain intégrera ce Nasdaq. Mais aujourd'hui, dans l'IA, il y a aussi un nouveau venu. Alors, on n'est pas encore sur les premières cotations, ce sera dans quelques jours, mais c'est désormais officiel. SK Hynix, le leader coréen, la star coréenne des cartes mémoire, eh bien SK Hynix officialise son entrée en bourse aussi à Wall Street.
Oui, via un ADR, et c'est un moment important. Je crois que, pour ceux qui ne connaissent pas SK Hynix, c'est un des principaux fournisseurs de mémoire à haute performance, ce qu'on appelle les HBM. Et on sait qu'ils sont indispensables au fonctionnement de l'intelligence artificielle de nouvelle génération. Et c'est une société dont les analystes sont très chauds aujourd'hui. On anticipe des marges de brut, je crois, de hauteur de 91% sur son activité DRAM au second trimestre. On voit que le marché a en tout cas acheté l'histoire. Le titre est en hausse d'environ 250% depuis le début de l'année. Le concurrent américain Micron aussi a connu une performance spectaculaire. Et c'est vrai qu'il faut néanmoins garder quand même une certaine prudence quand on regarde ces dossiers, puisque historiquement, on le sait que l'industrie des mémoires est une industrie cyclique. On a des périodes d'euphorie avec des marges exceptionnelles, des marges hyper élevées. Et elles sont généralement suivies de phases de normalisation. Et donc, la question aujourd'hui qu'on peut se poser sur ce type de valeur, c'est est-ce qu'on est au début d'un super cycle qui sera plus durable, porté par les besoins dans l'intelligence artificielle ou même dans le développement de la robotique dont on parle beaucoup, ou est-ce qu'on approche aujourd'hui d'un pic de rentabilité? En tout cas, on sait que via cette cotation aux États-Unis, SKNX cherche à lever entre 28 et 30 milliards de dollars. Donc, il faudra voir s'il y aura des arbitrages sectoriaux et est-ce qu'il y a suffisamment d'appétit pour aller chercher tous ces capitaux.
Le prix d'un... Exactement, ce sera un bon test hein, à nouveau pour l'IA, les cartes mémoire. Est-ce que le marché a encore l'appétit sur cette thématique? Et alors, justement, puisqu'on est sur SKNX, on est dans ces acteurs voilà, qui portent les dernières jambes de hausse de la tech en bourse. Et pour l'instant, Nvidia, comment se situent les produits Nvidia face aux défis industriels de la prochaine génération, en l'occurrence d'intelligence artificielle?
Oui, un cabinet de recherche a sorti il y a quelques jours que le lancement de Kuiper, la future architecture de serveur très, très haute performance de Nvidia, pourrait être repoussée. Devait sortir en 2027, elle pourrait sortir en 2028. Kuiper doit équiper les prochaines générations des puces de Rubin Ultra. Ce sont les processeurs destinés à entraîner les modèles d'IA les plus puissants au monde, hein, on le sait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Nvidia est confrontée à une réalité industrielle. Hein, la complexité de fabrication devient importante sur certains composants clés. On parle notamment des cartes électroniques qui relient l'ensemble des systèmes qui sont très difficiles à produire à grande échelle. Et est-ce que Nvidia va être capable de continuer à innover au rythme qu'elle a connu ces dernières années où presque un produit par an était sorti et lancé chaque année? Donc, est-ce que les contraintes de production vont commencer à peser sur le titre? Ça, c'est une réelle question qu'on peut avoir. Et aussi, est-ce que ça sera une opportunité à saisir pour certains concurrents? On peut penser à AMD ou à Google qui a ses propres puces d'intelligence artificielle pour aller chercher dans cet environnement-là, gagner des parts de marché.
Et justement, plus largement sur l'IA générative, Eric, est-ce qu'on commence à avoir une réponse à cette question que tout le monde se pose, savoir si le retour sur investissement est à la hauteur des promesses désormais? Est-ce qu'on a des signes que ça commence à être à la hauteur des promesses?
On l'a aussi, dans les derniers jours, on a eu le patron de Palantir, Alex Karp, qui s'est exprimé. Hein, bon, beaucoup d'influence dans la tech américaine. Et ce qu'il a indiqué, c'est que lui, il pense que les grands modèles de langage hein, qu'on a sortis, que ce soit ceux d'OpenAI ou d'Anthropic, ont été survendus et que le principal reproche qu'il évoque en concernant ces modèles, c'est que les coûts d'utilisation explosent hein, et que la création de valeur ne serait effectivement pas au rendez-vous pour les entreprises. Et on a pu le voir, hein, Tesla qui a limité à $200 les budgets de ses ingénieurs par mois de consommation. On l'avait vu avec Uber également qui avait réduit aussi, en tout cas limité, capé les dépenses d'IA de ces modèles. Et concrètement, on voit que voilà, aujourd'hui, on n'est pas capable de mesurer concrètement ou précisément le retour sur investissement de toutes ces dépenses. Et ce qu'il avance encore, c'est que les entreprises aujourd'hui veulent plus qu'accéder à un modèle d'IA puissant. Elles recherchent surtout des solutions concrètes qu'elles peuvent appliquer à leurs propres données, sécuriser leurs propres données. Bon, faut pas non plus être naïf, c'est un peu ce que fait Palantir. Donc, il essaie aussi de mettre en avant, bien entendu, son business. Hein. Faut pas oublier, hein, Palantir essaie de sécuriser, de transformer les données réelles de l'IA en outils opérationnels, mais ce que veut le marché aujourd'hui, bah, c'est effectivement arriver à monétiser, à calculer le coût. Donc le débat, il évolue. La question n'est pas nécessairement de savoir qui possède le modèle le plus puissant, mais quel modèle sera capable de transformer cette puissance en valeur économique réelle pour les entreprises qui l'adopteront et qui l'utiliseront.
Ouais. Bah, tout ça, on va le suivre encore, cette nouvelle semaine qui s'ouvre sur les marchés américains. Antoine, vous vouliez surgir?
Précisément, concernant ces annonces, il y a The Information qui sort que Microsoft est sur le point de supprimer 4800 postes. Alors, il s'agit de postes dans des divisions qui ne s'occupent pas d'IA plus précisément. A priori, c'est plus dans les jeux vidéo et les supports, notamment Xbox. Mais enfin, quand Microsoft se met à songer à tailler dans ses effectifs, c'est a priori pour mettre de côté pour les investissements pour l'IA. Vous savez, la semaine dernière, Microsoft a annoncé 6000 créations de postes parallèlement pour faire quoi ? Pour aller sur le terrain dans les entreprises, aider les gens à maîtriser l'IA. C'est dire s'ils y tiennent à l'adoption et qu'ils veulent que ça rapporte. Oui. Et effectivement, le patron de Microsoft avait été le premier à s'en inquiéter en début d'année.
Il faut maintenant qu'on parle de Tesla. On ne parlera pas de SpaceX, pas beaucoup aujourd'hui, ce sera plutôt demain. Tesla, moins 0,6%. Et pourtant, c'est une journée importante pour Tesla. Eric, le constructeur, fait parler de lui. Avec l'annonce, ça y est, du déploiement officiel de ses robotaxis, désormais à Miami, en Floride.
Oui, donc depuis le 3 juillet, effectivement, les robotaxis sont disponibles à Miami. C'est le troisième État américain à accueillir cette activité pour Tesla, après le Texas et la Californie. Elon Musk, on le sait, a beaucoup mis en avant l'intelligence artificielle comme nouveau moteur de croissance de Tesla. Mais pour les investisseurs, le déploiement des robots taxis reste encore beaucoup trop lent et veut avoir un peu plus de visibilité. On sait qu'à ce stade, Tesla prévoit pas de contribution significative de l'activité de robots taxis à ses revenus avant ou ses bénéfices avant au moins 2027. Et aujourd'hui, on sait que les investisseurs veulent également avoir des nouvelles, non seulement du déploiement de l'activité de robotaxi, mais aussi du déploiement d'Optimus, qui est le robot humanoïde développé par Tesla. On sait que l'entreprise a déjà converti une partie de son usine de Fremont aux États-Unis, qui était dédiée à la fabrication de modèles S et de modèles X, pour justement pouvoir augmenter sa capacité de production des robots. Et on le sait que lors de la prochaine publication trimestrielle, je crois que c'est le 22 juillet, au-delà du volume de voitures qui seront produites, les investisseurs, je crois, vont être plus intéressés d'avoir des indications concrètes sur le calendrier et le potentiel commercial de ces nouveaux relais de croissance qui sont attendus, l'activité robotaxi et le déploiement des robots chez Tesla.
Tesla en baisse de 0,6%, puis on va suivre Boeing aussi aujourd'hui, qui, alors de son côté, vous savez, on a beaucoup parlé des malheurs du 737 MAX, cet appareil de Boeing. Ça va mieux. Boeing prévoit d'ouvrir aujourd'hui sa quatrième ligne de montage pour le 737 MAX dans son usine d'Everett. Une étape importante là pour augmenter les cadences de production. Du coup, ça veut dire qu'il attire à nouveau finalement cet avion, Eric.
Oui, en fait, je pense que l'avion, c'est pas un problème d'attirance de l'avion. C'est qu'on sait, suite aux divers problèmes qu'ils ont pu avoir, le régulateur américain avait imposé des caps de production pour s'assurer d'une qualité de production qui revenait en tout cas au niveau des attentes. Progressivement, ces caps de production ont été levés. Maintenant, Boeing doit démontrer sa capacité à accélérer la production de ses vols tout en maintenant la nouvelle qualité qui a été trouvée. On parle de 47 appareils par mois dans un premier temps et ils espèrent monter d'ici début 2027 à 52 appareils par mois. Et tout en maintenant la qualité de production, ce qui avait été le gros défaut de Boeing dans les dernières années. Donc, on veut s'assurer que ce rythme de cadence plus élevé, après plusieurs années marquées par les difficultés industrielles et opérationnelles, livreront ce que le marché attend, ça veut dire la capacité à tenir ses objectifs de production et à stabiliser durablement sa chaîne industrielle pour plus avoir d'incidents comme on a pu avoir dans les dernières années.
Ce titre Boeing en direct, eh bien, il gagne sur l'annonce, c'est pas une annonce, mais sur cette date où donc une quatrième ligne de montage pour 737 MAX va ouvrir, il gagne un peu plus d'1%. Cette semaine, on suivra aussi, alors peu de rendez-vous macroéconomiques, mais quand même une curiosité du côté de la Fed, les minutes de la Fed, les premières minutes de l'ère Kevin Warsh, qu'est-ce que vous en attendez, Eric ?
Oui, donc ce qu'on attend de voir, c'est effectivement cette volonté qui avait été exprimée lors du discours de la dernière réunion de la Fed. Ça veut dire cet objectif ferme pour la Fed de revenir vers un niveau durablement autour des 2% d'inflation. On va voir dans les diverses discussions, puisqu'on aura le compte-rendu, si certains membres étaient quand même clairement plus ouverts à des hausses des taux pour atteindre cet objectif. Globalement, on devrait quand même avoir un message qui est assez ferme, même si les dernières données de l'emploi, notamment la semaine dernière, ont apporté une certaine détente sur le marché quant aux prochaines hausses des taux. Le discours, en tout cas, qu'on devrait retrouver dans les minutes, devrait quand même être assez ferme vers la volonté pour la Fed de retourner de façon durable vers cet objectif d'inflation à 2%.
Eric,
c'est ce qu'on devrait voir dans les minutes.
Lafrenière, ce sera mercredi soir, les minutes de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, Eric. Depuis Sony AM, le CAC 40 recule de 0,36%. Wall Street reprend les cotations en hausse, plus 0,7% le Nasdaq, plus 0,3% le S&P. Et Olivier Droyer, à 15h43, il nous rejoint, gérant action Montpensier Bevel. Bonjour Olivier.
Bonjour Guillaume.
Pour
bonjour à tous.
Rendre votre verdict. Ce verdict d'ailleurs que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre ensemble, est-ce que vous l'assumez pleinement ?
Complètement.
On vous écoute.
Alors le rebond du secteur de la santé en bourse est parti pour durer.
Bon, ça s'est engagé pour le coup. Voilà, parce qu'on se demande quel potentiel désormais sur les semi-conducteurs. On a vu que ça flottait un peu récemment. La défense a du mal à repartir. On cherche les secteurs qui, eux, vont offrir un vrai potentiel durable de croissance pour la suite encore et qui, jusqu'ici, évoluaient de façon un peu cachée. Vous dites, il y en a un, c'est le secteur de la santé.
Oui, alors il est un peu moins caché depuis deux semaines, hein, puisque finalement au niveau global, le secteur de la santé a fait 10% depuis deux semaines, donc c'est quand même assez fort. Jusque-là, c'est vrai que c'était un peu la catastrophe, puisque à moins 3%, le secteur de la santé était le deuxième plus mauvais secteur de la cote avant ce rebond. En fait, ce qui nous fait dire que ce rebond est plus durable, c'est qu'en fait, jusque-là, il y avait eu des tentatives, hein, parfois, quand les marchés étaient très inquiets d'acheter la santé. Mais en fait, quand les marchés achetaient la santé, ils n'achetaient qu'une seule chose. En fait, c'était des grands laboratoires pharmaceutiques. Tout ça, c'est des cash flows visibles, c'est pas très cher. Et donc, ça, finalement, ça rassure. Mais les autres segments du secteur de la santé se comportaient toujours mal. C'est-à-dire, c'est quoi les autres segments? C'est notamment ce qu'on appelle les sciences de la vie. Alors, c'est le diagnostic médical, hein. Bah, par exemple, vous connaissez tous un Biomérieux qui est à moins 35 depuis le début de l'année, par exemple. C'est des sociétés, notamment ce qu'on appelle les CDMO, hein, qui produisent les médicaments biologiques pour le compte de sociétés pharmaceutiques, hein, comme Lonza, le leader mondial suisse, par exemple, ce type de société-là. Donc, sciences de la vie, ça marchait pas. Et alors, les MedTech, c'était encore bien pire. Alors, les MedTech, c'est les gens qui vendent des dispositifs médicaux. Alors là, il y a un petit peu de justification, puisque quand vous avez un peu plus d'inflation, vous vendez un dispositif médical, il est remboursé à un certain prix, vous pouvez pas monter le prix comme vous voulez. Donc, l'inflation, c'est vrai que c'était pas très bon pour la MedTech. Mais enfin, à titre d'illustration, effectivement, quand on regarde la plus grosse MedTech américaine, Boston Scientific, finalement, qui se payait 31 fois au plus haut de l'année dernière et 21 fois sur moyenne de long terme, bah, on est tombé à 13 fois les bénéfices. Donc, c'est quand même un sacré de-rating, une sacrée baisse de valorisation. Mais là, ce qui se passe quand même dans le rebond depuis 10 jours, c'est que les pharma, elles se comportent pas mal, mais elles font un peu moins bien que les autres segments qui rattrapent. Et donc, pour nous, c'est quand même plus un signe de conviction qu'un signe de mouvement de protection passive de très court terme. Et bon, on trouve que ça s'est justifié parce que quand on réfléchit sur le fond, il y a pas mal de facteurs qui expliquent de choses positives qui nous semblent devant nous aujourd'hui. Alors, effectivement, la première, c'est la désinflation. On parle plus trop du pétrole, effectivement. On voit bien que les indices d'inflation, mécaniquement, au cours des prochains mois, vont baisser. C'est pas mal pour les medtech. Dans l'inflation, elles ont eu aussi le sujet des tarifs douaniers qui étaient assez prégnants. Mais en fait, quand on rencontre des sociétés, beaucoup demandent le remboursement en fait de ce qu'ils ont payé l'année dernière. Alors, on n'en parle pas trop, pas crier sur tous les toits, mais surtout pas en ces prévisions qu'on espère récupérer de l'argent de l'administration américaine. Mais quand même, concrètement, ça se passe. Notamment si on se projette en direction des midterms, en direction de mi-mandat aux États-Unis, il y a eu quand même un gel, voire même une baisse forte des budgets de recherche académique par Donald Trump. Or, même les républicains modérés trouvent que c'est pas forcément une bonne idée. Il y a des textes bipartisans en cas de perte de la majorité absolue par Donald Trump qui sont déjà prêts à être lancés. Et les industriels s'y trompent pas, hein, puisque on a eu un mouvement de rachat dans les sciences de la vie qui était assez intéressant il y a 8 jours. C'était américaine qui est pas très connue des Européens, mais qui est pas si petite que ça, qui s'appelle Biotechné, s'est fait racheter par Merck KGaA, l'allemand, pour 11 milliards de dollars. Donc ça montre bien qu'effectivement, il y a un certain nombre d'industriels qui pensent que c'est le moment et qu'on va avoir des points d'inflexion, notamment dans ce domaine des sciences de la vie.
Vous l'avez cité, ce titre, c'est parce que c'est le titre dans lequel vous croyez particulièrement ou vous en avez...
Non, pas du tout, c'est parce que simplement, je ne veux pas vous dire que j'y crois particulièrement parce que aujourd'hui, il y a déjà une offre qui a été faite, donc ce serait un peu malhonnête de ma part. Mais parce que simplement, ça illustre qu'effectivement, il y a des industriels qui réfléchissent sur le long terme et qui trouvent que c'était une opportunité intéressante.
Et alors aujourd'hui, elles sont où? Je suis investisseur aujourd'hui en bourse et j'entends Olivier de Royer m'expliquer que le secteur de la santé a beau jour devant lui, même si ça fait longtemps que vous nous le dites et que toutes les valeurs n'en profitent pas. Hein. Je vois Sanofi un peu moyen encore le parcours.
Alors Sanofi, c'est même pas moyen, c'est carrément mauvais. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va attendre la feuille de route de la nouvelle directrice générale, mais pour l'instant, il y a un vrai sujet de remplacement des produits qui arriveront à échéance. Mais c'est plutôt effectivement d'élargir dans tous ces domaines hors grandes pharma. Les grandes pharma, on aime bien certaines grandes pharma, mais elles sont globalement à leur prix. C'est pas là qu'il y a vraiment les opportunités les plus importantes. Alors il peut y avoir des biotech, mais là il faut être vraiment spécialiste. Et sinon c'est vraiment toutes ces sociétés qui sont finalement des sociétés de services, des belles sociétés de croissance qui aujourd'hui sont sur des valorisations faibles. Mais alors il y en a une qu'on aime particulièrement aujourd'hui, c'est
une idée.
C'est Tecan, qui est une société suisse. Alors Tecan, c'est
vous êtes le premier à nous en parler.
C'est Tecan, une société suisse qui est une société qui historiquement en fait conçoit et touche des royalties sur les automates fabriqués par les sociétés de diagnostic. Ils ont également une activité qui est dans la bioproduction, donc ils sont vraiment au cœur de toutes ces tendances du life science. Ils ont également une activité d'externalisation de dispositifs médicaux. Alors, ça, ils ont acheté ça en 2021, ça partait d'un bon sentiment, mais ils sont fait un peu voir par le vendeur, puisque Intuitive Surgical, qui est leur principal client là-dessus, diversifie ses sources d'approvisionnement. Mais après 4 ans quand même de décroissance organique et de baisse des marges, on est à 16% en EBITDA contre 21% au pic. Aujourd'hui, on a une reprise qui est en train de s'amorcer. Ils sont très exposés sur les équipements, et s'il y a une reprise dans le segment, ben, ça va être vraiment sur les équipements. Ils sont très exposés à la recherche, exposés à la recherche académique, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on est sur un titre qui est quand même finalement en hausse assez sensible, hein, year to date, en taux de 30%. Donc, peut-être qu'il faut essayer de faire ça en plusieurs fois ou d'affiner le point d'entrée. Mais quand on prend une perspective historique, on est quand même au tiers du pic de 2021. Donc, je dis pas qu'on va y retourner puisque ça me semble quand même un peu excessif comme niveau de valorisation. Mais enfin, il reste encore quand même de la place si on se projette.
On rappelle le nom de ce titre et on l'épelle surtout.
TECAN.
Voilà, pour ceux que ça intéresse. Il n'y a pas que la santé dans la vie, même si c'est important, bien sûr.
Bah, c'est le plus important. Mais
quels autres secteurs vous privilégiez pour le deuxième semestre?
Alors bon, je crois qu'il faut quand même un cœur de portefeuille qui va être structuré quand même autour de toutes les thématiques corrélées à l'IA. Peut-être pas tout mettre sur les semi-conducteurs non plus, parce qu'on voit que finalement des semaines comme la semaine dernière, ça peut être dangereux. C'est quand même des secteurs qui peuvent être cycliques aussi à certains moments. Donc il faut quand même être dans ces thèmes de l'énergie. Effectivement, on croit beaucoup aux énergies renouvelables, aux réseaux électriques. Beaucoup de choses se jouent sur l'investissement dans les réseaux électriques, mais on peut avoir que ça. Donc il faut de la diversification, il faut avoir des choses qui soient... tout ne peut pas être corrélé dans un portefeuille, on le voit sur certaines périodes à ça. Donc il faut la santé, qui est en plus un secteur qui est plutôt, il faut réfléchir à quels sont les autres secteurs qui sont en tout cas pas des perdants de l'IA et qui sont plutôt des gagnants. La santé en fait partie. Il y a dans la consommation un certain nombre de poches consommation très mal aimées aujourd'hui qui peuvent être intéressantes. Alors il faut faire attention d'être quand même sur les bonnes tendances de ce que veut le consommateur, mais avec une certaine désinflation qui est en train de se produire. Quand vous êtes sur les bons segments, je reviens un peu à la santé, mais c'est vrai que la cosmétique quelque part, elle va bénéficier par exemple des tendances, notamment avec les gens qui prennent des médicaments pour maigrir, les fameux GLP-1, les Wegovy et autres Mounjaro. Ça conduit les gens à avoir plus d'utilisation de cosmétiques, d'alimentation protéinée. On voit d'ailleurs que le segment des ingrédients, par exemple, est un segment qui est intéressant, qui a commencé à rebondir en bourse, qui était très délaissé, qui a commencé à rebondir. Donc, un certain nombre de pistes dans ces domaines-là.
Ben voilà, quelques idées donc pour la suite. Olivier, Thalès, il faut qu'on en parle aussi. Thalès gagne quasiment 1%, puisque c'est Thalès qui va attraper le gros lot, qui va prendre le contrôle d'Exail. Donc ça a été annoncé, ce titre Exail gagne lui 2,5%. On va parler aussi, Antoine, dans un instant, du potentiel du secteur de la défense dans son ensemble. Finalement, on pensait que c'était Safran. Finalement, Safran a annoncé vendredi que ce serait pas eux, et ce sera Thalès qui reprendra Exail.
Oui, alors ça a été un feuilleton pendant le week-end, donc pour les nerfs des investisseurs, c'est mieux. Comme ça, au moins, c'est réglé le lundi à l'ouverture. C'est très difficile de savoir ce qui est passé exactement dans les coulisses, parce que j'imagine qu'en dehors des groupes de défense, l'État français est également impliqué. On sait que c'est très important pour l'État français. L'État français ne veut surtout pas qu'une pépite technologique comme Exail échappe finalement à la France et reste dans un groupe français. Donc, à la fin, c'est Thalès. A priori, ça va se faire, puisque effectivement, ça va être quand même très largement verrouillé. C'est vrai que on peut être un peu déçu du prix au premier abord, puisque certains analystes ont des objectifs de cours à 160 euros, donc 134, c'est quand même moins bien. Mais enfin, il faut replacer ça dans le contexte où ils avaient eu quand même un litige avec un de leurs financeurs, ICG, Intermediate Capital Group, qui finalement leur avait prêté de l'argent et qui ils n'étaient pas d'accord sur le financement qui était dû. Donc, en fait, ça va être quand même Thalès qui va avoir finalement à charge de régler ce problème et donc de payer certainement un peu plus que le cours de bourse. Donc, le 134, c'est peut-être un 150 si on corrige de tout ça. Donc finalement, tout ça est quand même relativement logique et il n'y aura probablement pas de surenchère parce que l'État français va faire en sorte que ce soit un Français.
Est-ce que les perspectives de fusion-acquisition peuvent réveiller un petit peu le secteur de la défense? On a vu qu'il y a eu un engouement extraordinaire l'année dernière, des prises de position, puis voilà, le soufflet retombe un petit peu. Là, on voit tout un tas d'opérations. Il y a Exail, il y a Lockheed Martin qui vient de lancer une OPA sur Ultramarine, qui est lui aussi un acteur des technologies de défense maritime. Est-ce qu'il y a justement ce ferment-là sur le secteur?
Oui, alors c'est vrai que ça paraît contre-intuitif dans le contexte de guerre partout, mais enfin, Rheinmetall, qui est la valeur européenne de défense, même si ça rebondit depuis quelques jours en amont du sommet de l'OTAN et avec ses sujets, c'est quand même moins 29 encore depuis le début de l'année. KNDS, finalement, qui vend les chars Léopard allemands et les canons César, a dû reporter son introduction en bourse. C'est vrai que c'était un peu gourmand en termes de valorisation, mais c'est vrai qu'il y a une distinction qui se fait fait dans le secteur aujourd'hui entre les équipements lourds sur lesquels les investisseurs sont un peu prudents. On se rend compte finalement ça coûte beaucoup d'argent et que si on détruit ça avec un drone, bah finalement c'est peut-être pas là où il faut mettre son argent en matière de défense. Et donc un switch vers les technologies de défense dont font partie Exail ou d'autres groupes, c'est ça qui a quand même le plus le vent en poupe. Aujourd'hui, il faut être sélectif dans ce secteur de la défense, secteur qui est effectivement pas mal souffert, qui rebondit un peu avec le sommet de l'OTAN, voilà. À voir si c'est du court terme ou pas.
Mais... Oui, ça démarre demain, hein, sommet de l'OTAN. Effectivement, les 32 pays membres de l'OTAN se réunissent en Turquie pour 2 jours. La dernière fois, le dernier sommet de l'OTAN, c'est là qu'avait été acté le fait que les États membres allaient consacrer 5% de leur budget aux dépenses de défense.
Voilà, alors effectivement, on a des annonces. Hein. L'Italie parlait de 17 milliards encore ce matin pour arriver à 3,35% du PIB dans 2 ans, c'est très précis. Hein. Oui. L'Espagne a fait aussi des annonces moins claires, mais globalement, c'est ce qui est difficile, c'est de savoir si finalement tout ça est fait pour amadouer Donald Trump et pour éviter que finalement il n'aboie trop fort pendant le sommet, puis après on fera ce qu'on voudra. Puis surtout, tout ça dépendra beaucoup de savoir si Donald Trump garde une majorité absolue après les midterms ou s'il ne l'a pas, auquel cas finalement on lui dira peut-être gentiment qu'on fera ce qu'on a envie de faire. Donc effectivement, il y a des effets d'annonce sur lesquels il ne faut peut-être pas prendre tout ça pour argent comptant. Ça permet au secteur qui avait beaucoup baissé de rebondir. Je le dis, il faut être aujourd'hui. Il y a des choses intéressantes et passionnantes dans ce secteur parce que néanmoins, quel que soit le chiffre exact des budgets, il y a des budgets, il y a de la croissance, mais il faut être sélectif.
Demain, SpaceX va intégrer le Nasdaq 100. Est-ce que vous sentez que ça va le faire, quoi? Est-ce que, alors que le titre a quand même reperdu 30% depuis ses plus hauts, SpaceX, la simple entrée dans le Nasdaq 100 va attirer tellement de flux que ce titre va repartir de l'avant, même si, alors parallèlement, il y a des fenêtres de vente hein, pour les actionnaires historiques qui vont s'ouvrir aussi.
Voilà, alors c'est un peu complexe. À très court terme, ça va forcément mécaniquement entraîner des flux importants, hein, compte tenu de la capitalisation boursière, c'est mécanique. Alors après ça, c'est vrai que c'est à partir de la publication du deuxième trimestre où là, on va avoir graduellement des investisseurs historiques, donc pas ceux qui sont rentrés en bourse, qui vont avoir le droit de vendre. Alors, ils ont le droit d'abord de vendre 20%, et puis ensuite, finalement, ils vont pouvoir aller jusqu'à 65% au bout de 135 jours. Parfois, il y a des conditions de prix, etc. Il va y avoir, a priori, finalement, des tranches qui vont s'ouvrir tous les 20 jours. Mais enfin, il va y avoir un flux dans l'autre sens. Alors, ce qui est quand même fou, c'est qu'on n'a pas la date de publication officielle du trimestre de SpaceX aujourd'hui. C'est indicatif, plus ou moins, 6, 8 août. Mais on ne sait pas. Donc, quand même, quand vous faites 2000 milliards de dollars, il y a un peu un dédain quand même pour la vie de la bourse. Mais,
Et les résultats seront accessibles seulement sur le site de SpaceX ou sur le Filix d'Elon Musk ou de
voilà.
SpaceX.
Voilà. Mais c'est un enjeu clé parce que.
Sorte de canaux traditionnels.
Voilà. Mais c'est un enjeu clé parce que aujourd'hui, quand on regarde tous les hyperscalers, on peut discuter de savoir du momentum, de combien de temps vont durer cette vague d'investissement, en tout cas à ce niveau-là. Mais la valorisation des hyperscalers n'est pas scandaleuse, n'est pas un obstacle, n'est pas de sujet de valorisation hors de prix. Par contre, SpaceX, oui, c'est conceptuel. Et donc, il faudrait pas quand même que les petits porteurs qui ont quand même investi dans SpaceX, perdent quand même 60-80% parce que ça, ce serait quand même assez destructeur en termes de comportement de marché. Donc, attention à ce point-là quand même.
Merci beaucoup, Olivier de Royer. Avec nous aujourd'hui, Montpensier Arbevel. Ma valeur ajoutée, ce sera à 16h10. On parlera d'un fabricant de lasers, mais pas ceux de science-fiction qui détruisent des planètes. Non, là, c'est des lasers qui améliorent le quotidien, qui soignent et qui explorent aussi ces lasers. Vous découvrirez cette valeur avec les experts de Métigestion. Valeur ajoutée à 16h10, puis en podcast et replay. Le CAC 40 perd 0,48%.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Parce qu'investir en bourse, ça se cultive. Culture Bourse, Julie Connerton et son expert vous répondent chaque jour. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Oui, si vous avez des questions pour arbitrer vos portefeuilles, vous connaissez l'adresse, c'est BFM Bourse, @bfmbusiness.fr. Et il y a ce QR code qui va apparaître sur vos écrans.
Et cette question sur un des secteurs qui, face à l'IA, interroge le plus.
C'est un secteur en pleine transformation, celui de la publicité. Et c'est vrai qu'il est un petit peu entre deux eaux, puisque la technologie bouleverse son modèle traditionnel. Et c'est peut-être pour ça que John nous a écrit. Il veut savoir ce que valent les titres du secteur publicitaire en bourse. L'IA est-elle un levier de croissance ou un risque de disruption majeure? On pose la question aujourd'hui à Bertrand Lamiel pour Ports en Paire Gestion qui nous accompagne. Bonjour Bertrand.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous. Bertrand, comment vous regardez ce secteur, ce marché publicitaire en bourse?
Alors, c'est un secteur qui était véritablement cloué au pilori et qui fait partie des nombreux secteurs qui ont été vus comme victimes de l'intelligence artificielle. En fait, les investisseurs se sont dit très rapidement, puisqu'on est capable de créer des vidéos tout seul, avec n'importe quel ça va mettre à mal le marché de la publicité. Et donc concrètement, c'est des titres qui ont été divisé par deux sur les points hauts, entre le point haut et le point bas de marché. C'est en train de se reprendre un petit peu, mais pour l'instant, on est encore dans des zones de controverse. Celle qui nous paraît le plus avancée, c'est Publicis, parce que là, pour le coup, il y a le mauvais traitement qui lui était réservé en bourse. Par contre, d'un point de vue opérationnel, ils ont continué à faire ce qu'ils font très bien, à savoir leur métier et surtout des acquisitions, pour positionner aujourd'hui Publicis plus vraiment comme une... Enfin, c'est toujours une valeur de publicité, mais c'est surtout une société tech. On se rend compte que, voilà, en phase 2, on va retrouver des Accenture, des Gartner, potentiellement des Capgemini. En fait, ils travaillent beaucoup sur le traitement de la donnée, sur l'analyse de la donnée. Et c'est ça que les investisseurs n'ont pas complètement compris jusqu'à présent, ou en tous les cas ont délaissé, c'est que faut pas juste, entre guillemets, faire des vidéos. Il faut surtout être capable de traiter de la donnée, acquérir des flux, faire des espèces de mesures d'audience pour donner des retours sur investissement aux clients.
Bertrand qui nous accompagne dans un instant, on gardera Exel à nouveau et Thalès qui progressent l'une et l'autre avec le rachat d'Exel par Thalès. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais Julie, Culture Bourse est aussi la très haute pédagogie financière.
Alors, il y a de plus en plus de Français qui semblent se détourner de l'investissement profit des marchés financiers. Une tendance qui est confirmée par certains chiffres récents. Mais est-ce vraiment une stratégie gagnante? Faut-il vendre ses biens locatifs pour tout miser sur la bourse? Il va nous répondre. C'est Jean-Benoît Gouambet, cofondateur de Moonshot Patrimoine. Bonjour Jean-Benoît.
Bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Merci d'être avec nous. Jean-Benoît, est-ce que vous confirmez cette tendance? Est-ce que les propriétaires bailleurs délaissent massivement l'immobilier pour investir en bourse aujourd'hui?
Alors, massivement, je ne pense pas, mais clairement, je confirme la tendance. Et d'ailleurs, un rapport de l'AMF fait état aussi de cette tendance qui est sortie d'ailleurs la semaine dernière. Et nous, en tant que conseillers financiers, on reçoit de plus en plus de fichiers Excel de clients qui nous montrent un petit peu exactement les revenus qu'ils ont quand ils détiennent de l'immobilier en direct. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que leur rendement, c'est autour, je fais des moyennes, de 5%. C'est-à-dire que les loyers, c'est 5% de la valeur de l'immobilier. Ensuite, il y a évidemment des charges de copropriété, des taxes foncières, des charges de location, etc. Il y a de temps en temps aussi de la vacance immobilière, des impayés. Et donc là, on passe de 5 à 3,5% avant impôt. J'enlève les impôts. Quand vous avez de la chance, vous finissez que avec 2,5%. Et donc là, évidemment, on nous pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire?
Mais alors du coup, là, vous avez répondu à la question. Ce qui rapporte le plus, a priori, c'est plutôt la bourse. Mais dans quel cas il faut vendre son bien locatif?
Mais alors, je suis pas sûr que là, c'est juste un état des lieux. Mais si on regarde vraiment sur 40 ans, on voit que les deux sont des bonnes décisions d'investissement. C'est-à-dire que l'immobilier, comme les actions, c'est autour de 10% en moyenne. Alors, il se trouve que sur les 10 dernières années, ça a un petit peu changé. On est toujours autour de 10-15% pour les actions, mais plutôt autour de 2,5% sur la prise de biens, de valeur de l'immobilier, plus la location, ça fait autour de 5%. Alors, qu'est-ce qu'il faut vendre quand on est quand est-ce qu'il faut vendre quand on est un particulier qu'on détient son bien en direct? Ben déjà, il faut le vendre quand on n'est plus endetté. Parce qu'il y a un gros avantage avec l'immobilier, c'est quand la banque nous a prêté de l'argent pour acheter notre bien immobilier, là c'est intéressant. Il faut aussi vendre quand, si jamais le loyer représente moins de 3% de la valeur totale du bien, là je pense qu'il faut vendre. Et ensuite, il y a également sur le taux marginal d'imposition, si vous êtes à 40%, au final avec le prélèvement social, vous allez devoir donner plus à l'État que le reste. Il y a aussi le fait que d'avoir des passoires thermiques, si vous êtes F et G, à mon avis, il vaut mieux vendre. Mais le gros problème, c'est si jamais vous avez dans votre patrimoine qu'un seul bien immobilier, vous avez aussi un problème de diversification quelque part.
Et alors, dans le cas où ma décision elle est prise, j'en ai marre, je vends mon bien, où est-ce que je mets mon argent pour espérer un rendement équivalent ou supérieur?
Tout d'abord, en tant que conseiller financier, il faut prendre en compte l'épargne de précaution, donc autant 6 mois de dépenses sur un contrat d'assurance vie, fonds euro. D'accord. Ensuite, il faut aller sur un PEA, c'est là où c'est le plus efficace au niveau fiscal. Et ensuite, il y a deux possibilités. Soit vous avez plus de 500 000 euros, soit vous avez moins de 500 000 euros. Si vous avez moins de 500 000 euros, moi je vous conseille d'ouvrir encore un contrat d'assurance vie, mais un petit peu nouvelle génération. Il y en a où vous pouvez créer un portefeuille très diversifié. Si vous avez plus de 500 000 euros, là, ce que je conseille, c'est de faire la même chose, mais à Luxembourg, au Luxembourg.
D'accord.
Contrat d'assurance vie luxembourgeoise. Là, c'est pareil, vous allez créer un portefeuille diversifié. Il n'y a pas d'avantage fiscal. Hein. En revanche, il y a beaucoup plus de produits financiers. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Et les produits coûtent moins cher, en plus de la sécurité luxembourgeoise. Et là, que ce soit français ou luxembourgeois, je vous inviterai, quoi qu'il arrive, à avoir de l'immobilier dans votre patrimoine pour, quoi qu'il arrive, rester diversifié.
Merci beaucoup Jean-Benoît Gambet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Moonshot.
Merci Jean-Benoît. Sur bfmbourse.com, cet article aussi consacré à Carbolix, intéressant, soutenu par de nouvelles données cliniques prometteuses sur sa plateforme de cardiologie guidée. C'est un carton aujourd'hui, cardiologie guidée par l'IA, figurez-vous. Carbolix, valeur très spéculative mais qui est en forte hausse. L'article est disponible. On se retrouve dans un instant avec Antoine qui nous rejoindra. Merci Julie, à demain.
Guillaume, à demain.
Pour de nouvelles aventures. Julie Cognerton dans Culture Bourse chaque jour. Le CAC perd 0,36. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.